Bien, il reste 2 minutes avant l'heure du début du cours. 2 minutes pendant lesquelles je vais vous faire quelques annonces à caractère non commercial. Première annonce, c'est qu'il y aura 3 cours qui suivent ce cours-là. Le 5, le 12 et le 19 janvier, où nous regarderons cancer 5 janvier, thérapie génique le 12 janvier. Et le dernier cours sera sur la maladie d'Alzheimer, je dirais en duo avec Étienne-Émile Beaulieu, qui était professeur dans ce collège, voilà, et qui partage avec moi une passion, et c'est la recherche sur de nouvelles thérapies pour essayer de trouver quelque chose sur la maladie d'Alzheimer. Ce ne sera pas complètement terminé. Après les cours, il y aura 8 jours d'interruption, et le 2 février, dans l'après-midi du lundi 2 février, il y aura un colloque avec un certain nombre de personnes qui vous parleront de succès sur des nouvelles molécules, que ce soit Jean Martinez avec une molécule qui a obtenu l'accord de la FDA cette année, ou Sylviane Muller de Strasbourg qui a une molécule qui est en phase 3. Il y aura aussi Bernard Daugeras qui est un polytechnicien qui est impliqué dans la finance et qui a fait un rapport pour l'Académie des technologies sur l'innovation et la finance. Les difficultés de financement de l'innovation thérapeutique pour les jeunes entreprises. Et en dernier intervenant, on aura le plaisir d'écouter Alain Carpentier qui viendra nous parler du cœur artificiel de la société CARMAT. Pour ceux qui ne le savent pas, CAR, c'est comme Carpentier et MAT, c'est comme Matra. Il ne nous parlera peut-être pas mais dans les détails, mais ça a été une rencontre extraordinaire il y a plus de 15 ans. Entre un chirurgien passionné de chirurgie cardiaque et de cœur artificiel et un grand capitaine d'industrie qui était Jean-Luc Lagardère. Voilà comment a été créée la société qui a développé le cœur artificiel, cœur qui a été implanté pour la 2e fois depuis le mois d'août sur un patient et donc qui se porte bien actuellement et pour lequel on aura probablement des détails. Vous aurez l'occasion de poser des questions à Alain Carpentier sur cette extraordinaire aventure. Le cœur artificiel. Ce n'est pas tout à fait du médicament, mais c'est une très belle histoire. Je voulais qu'on termine ce colloque sur cette aventure extraordinaire. Voilà. Bien, il est 16h01. Monsieur Bricaire, François Bricaire, va me rejoindre à la fin de mon exposé. Il vient de la Pitié-Salpêtrière. C'est un chef de service, et comme tous les chefs de service des CHU parisiens, il a une charge de travail qui lui permet d'arriver juste à temps pour son exposé. Voilà. Bien, on va parler de tuberculose aujourd'hui et je voulais vous parler plus particulièrement du mécanisme d'action de l'isoniazide. Mais avant de ça, je voudrais tout de même vous faire un petit rappel sur l'histoire de la tuberculose. Ça me donnera aussi l'occasion de parler d'hygiène pasteurienne. Vous m'avez entendu souvent parler d'hygiène pasteurienne. Là, je vais encore faire une piqûre de rappel. Voilà. Alors la phtisie, comme on disait dans les vieux livres, c'est connu depuis longtemps. Hippocrate avait parfaitement identifié la tuberculose, la phtisie, comme l'on disait, et le caractère infectieux de cette maladie a été documenté à partir du XVIe et XVIIIe siècle. Ce qui est très intéressant, ce que l'on se souvient plus tellement, c'est pourquoi les sanatoriums. Alors, c'est connu des générations précédentes, la nôtre, traitement des tuberculoses en sanatorium. En fait, l'origine, c'est un jeune Allemand, botaniste allemand, Hermann Bremer, qui était touché par la tuberculose et était en train de était lancé dans une expédition dans l'Himalaya pour aller faire herboriser au pied de l'Himalaya. Voilà, pas en haut de l'Himalaya, mais au pied de l'Himalaya, dans un endroit où il y a encore un peu de fleurs et un peu de flore. Et il est revenu en Allemagne et sa tuberculose était quasiment guérie. Donc, la vie au grand air, l'altitude, tout était là. Il fait une thèse de médecine et il milite pour les séjours en haute montagne. Et à partir du 19e siècle, on a l'épopée des sanatoriums. Voilà une photo de sanatorium dont je ne sais plus s'il est en France ou en Allemagne, peu importe. Et ça a été la grande époque des sanatoriums où, pour essayer de guérir les gens de la tuberculose, les seules armes, c'était effectivement d'aller en altitude, prendre du grand air, sortir des miasmes des villes de l'époque. L'ère des villes à l'époque, 19e, 20e, même si on se plaint actuellement de la pollution, je peux vous assurer que ceux qui se souviennent de ce qu'était le smog britannique avec le charbon non déçu de furet, il suffit maintenant d'aller à Pékin pour se souvenir de ce que ça pouvait être à l'époque. Ce n'était pas tout à fait l'air pur des montagnes. Donc voilà la grande épopée des sénatoriums, la tuberculose. Alors la tuberculose, voilà à quoi ressemble le bacille de la tuberculose, identifié par Robert Koch. En jargon de tuberculose, on dit le BECA, le bacille de Koch. Voilà le BECA, c'est les bâtonnets, voilà, qui sont extrêmement résistants. C'est une mycobactérie, myco comme champignon, bactérie. Donc c'est une bactérie qui a des caractères un peu champignons et qui a une résistance extraordinaire qui peut survivre desséchée sur un trottoir pendant de très nombreux mois. Et ce qui expliquera peut-être quelques règles d'hygiène dont je vais vous parler après. La transmission de l'homme, du bétail à l'homme, a été documentée par un médecin militaire formé à Strasbourg, Jean-Antoine Villemain, et on a compris qu'effectivement, la cohabitation dans les fermes à l'ancienne entre l'étable, l'écurie, la salle à manger, la chambre à coucher, le tout étant séparé par une cloison très fine, posait problème. Voilà. Donc, tuberculose, maladie touchant à la fois. Voilà, magnifique œuvre d'art moderne. Voilà le génome de Mycobacterium tuberculosis. C'est 4 400 000 paires de bases. On sait tout du génome du bacille de Koch. Un peu moins de 4 000 gènes exprimés. Et l'autre information qui n'est pas une information génétique, mais une information bactériologique, c'est que le BECA se divise lentement, 20 heures, au lieu de 20 minutes, par exemple, pour Escherichia coli. Donc, par rapport à une bactérie, c'est un mycobactérium lent. Voilà. Et qui survit de longues semaines à l'état desséché. L'inhalation de quelques BECA suffit à être infecté. C'est une infection par voie aérienne. Voilà. Alors, on va revenir en arrière. Certains se souviennent encore de ce genre d'affiche dans les cages d'escalier d'immeubles parisiens ou dans les livres scolaires, défense de cracher. Ne crachez pas dans les endroits publics. Si vous posez la question maintenant à de jeunes étudiants en médecine, la plupart ont oublié parce qu'on ne fait plus de cours d'hygiène. Donc il faut retrouver dans les vieux livres. Alors tout simplement, c'est que quand vous crachez par terre et que vous êtes tuberculeux, vous allez avoir un crachat qui contient du BECA. Ce BECA va dessécher et en lévitation avec les courants d'air dans les couloirs du métro, vous avez à ce moment-là une respiration. Même si vous faites du jogging sur un trottoir parisien, si quelqu'un qui était tuberculeux a craché un peu avant vous, vous avez de bonnes chances pour pouvoir récupérer en faisant votre jogging ou simplement en se promenant dans un lieu public du BECA. C'est comme ça que se fait la transmission de la tuberculose. Donc à l'époque, avant les antibiotiques et avant la grande disparition de la tuberculose, eh bien on avait l'habitude, dans les pays où on défendait l'hygiène, de ne pas cracher. Donc je ne suis pas tout à fait satisfait de voir les grands sportifs que sont les footballeurs cracher et expliquer aux jeunes que plus vous crachez, plus loin et plus vous êtes un homme. Donc revenons et souvenons-nous de ça, le crachat n'est pas hygiénique. Les Chinois, qui étaient un pays où il y avait des cracheurs professionnels de haut niveau, pour avoir visité la Chine il y a 30 ans, je peux vous assurer que c'était assez spectaculaire, eh bien avec le SRAS, les Chinois ont compris qu'il faudrait peut-être se calmer sur le crachat. Et donc j'aimerais bien que l'on enseigne encore dans notre système éducatif des choses concernant l'hygiène pasteurienne. Voilà. Ce simple fait de limiter le crachat en France, plus quelques règles d'hygiène, fait qu'avant l'arrivée des antibiotiques, le nombre de décès dus à la tuberculose en France était passé de 22 décès pour 10 000 habitants en 1900 à 14 pour 10 000 en 1939. Juste, et 1939, il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a pas le rimifond, l'isoniazide. Donc maintenant, on est descendu à 0,15 décès pour 10 000 par an en France, à peu près les chiffres. Il y a une recrudescence de la tuberculose, en particulier de la tuberculose multirésistante. On va en parler un petit peu. Voilà. Donc il n'était pas inutile de rappeler les règles d'hygiène pasteurienne au début du 21e siècle. On est en oubli. Ça s'enseignait à l'école primaire dans toutes les bonnes écoles de la République en 1950-1960. On enseigne d'autres choses maintenant, mais à l'époque, on enseignait ça. Le BCG, on a tous entendu parler du BCG avant l'arrivée des antibiotiques. C'est Calmette et Guérin. Voilà, Camille Guérin, il y a des rues Camille Guérin, des rues Calmette. C'est des pasteuriens travaillant à Lille. Ils ont commencé à travailler à Lille et ça a duré très longtemps, leurs travaux. Ensuite, ça s'est terminé à Paris. Et c'est la mise au point d'un vaccin. On est dans l'époque où, comme on n'a pas d'antibiotiques, on cherche à aborder le traitement de la maladie par l'intermédiaire d'une vaccination. Et donc, partir de Mycobacterium bovis, qui est la souche qui infecte les bovins, comme son nom l'indique, cultivé sur des tranches de pommes de terre immergées dans de la bile stérile de bœuf. Vous imaginez que ça ne s'est pas trouvé par hasard et il a fallu beaucoup de temps pour trouver un moyen pour cultiver le BK dans de bonnes conditions. Seule façon pour, d'une part, l'étudier et, d'autre part, essayer d'obtenir des formes inactivées de façon à pouvoir transformer cette forme inactivée en vaccin. Voilà. La première vaccination a eu lieu en 1921 à l'hôpital de la Charité à Paris. Pour ceux qui se souviennent de la géographie des hôpitaux parisiens, c'est actuellement occupé par la faculté de médecine rue des Saints-Pères. Voilà, c'est l'ancien hôpital de la Charité. Alors, il y a eu beaucoup de discussions sur l'efficacité ou non du BCG. Je pense que l'une des premières efficacités, c'était de rappeler qu'il y avait de la tuberculose, et donc BCG, tuberculose, on faisait attention. Plus le fait qu'on ne crachait pas, ça a amélioré les choses. Et donc, on a eu l'obligation en 1951, peut-être un peu tard, puis depuis 2007, on a abandonné la vaccination BCG. Voilà. Donc, probablement parce qu'effectivement, maintenant, on est dans une situation qui est plus confortable. 0,15 décès pour 10 000 habitants en 2013 par an. On est à un niveau où on traite avec les outils de chimie thérapeutique la maladie. Deux grandes formules. La streptomycine, découverte en 1943, voilà la formule. C'est le premier antibiotique qui est associé avec cette molécule très simple. C'est à peine plus compliqué que le paracétamol. Voilà, c'est l'isoniazide. Rimifon, ça a été Novartis qui a lancé le nom commercial de cette molécule. L'association de ces deux molécules, c'est la première bithérapie réellement efficace vis-à-vis d'un agent infectieux. On est en 1950, et là, avec ces deux armes, streptomycine et rimifon, eh bien, on va vider les sanatoriums en l'espace de 10-15 ans. Donc, tous les sanatoriums alpins, de l'entrée de la vallée de Chamonix, pour ceux qui se souviennent du plateau d'Assy, vont se vider peu à peu. Il n'y a pas simplement la streptomycine, ça a été le début, on va voir d'autres molécules. Mais c'était une bithérapie. Donc, quand on vous parle de bithérapie pour des bactéries, actuellement, ce n'est pas encore rentré dans les mœurs, alors que pourtant, pour un mycobactérium, on fait ça depuis 60 ans. Alors, le mécanisme d'action de la streptomycine. Comme les autres bactéries, comme pour les autres bactéries, la streptomycine inhibe la sous-unité 30S du ribosome de Mycobacterium tuberculosis. Alors, vous avez des belles photos ici, des images que l'on peut avoir, parce qu'on a les structures de ces sous-unités de 30S du ribosome. Le ribosome, c'était tout de même une grosse, grosse molécule. On n'imaginait pas, il y a 30 ou 40 ans, on avoir une structure aux rayons X. Maintenant, on a des structures aux rayons X du ribosome tout à fait extraordinaires. C'est beaucoup plus gros que ça. Ça, c'est juste le site actif. Voilà l'interaction de la streptomycine avec un certain nombre de résidus autour dans le ribosome. Et c'est une perturbation plus qu'une inhibition de la synthèse des protéines. En fait, la streptomycine bloque, inhibe la sous-unité 30S et perturbe la synthèse. En fait, c'est de la fabrication de protéines avec des aminoacides qui ne sont pas à la bonne place. D'où le fait que le mycobactérium est modifié et éliminé. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la grosse limite de la streptomycine au point de vue traitement, c'est sa durée. la durée de traitement. 18 mois de traitement avec du Rimifon. Donc 18 mois de traitement, ça veut dire des difficultés d'observance, de compliance, comme on dit en français moderne, pour un traitement qui est assez long. Dans un pays avec des structures de santé organisées, un suivi médical précis et organisé, 18 mois, c'est relativement possible et facile. Mais vous imaginez que dans d'autres pays, avec des structures médicales totalement désorganisées ou mal organisées, 18 mois, c'est extrêmement difficile. Et c'est probablement une des origines de la montée des multirésistances sur la tuberculose. Si vous avez un patient qui, au bout de 3 mois, 4 mois ou 6 mois, arrête son traitement, alors que son mycobactérium a vu de la streptomycine et les souches de mycobactérium n'ont pas été anéanties, définitivement, ça veut dire qu'il va relarguer dans la nature des souches qui auront vu cet antibiotique. Et la meilleure façon de préparer la résistance chez les bactéries ou le mycobactérium, c'est effectivement d'exposer ces bactéries ou ces mycobactériums à des quantités en dessous de la quantité pharmacologique, de la dose active, et donc à ce moment-là, on prépare les mutations. L'autre point, c'est 18 mois de traitement, c'est long, et ça a un coût, ça a un suivi médical, au-delà du coût des médicaments, et donc l'idéal, et on va rêver, c'est avoir un traitement pour la tuberculose en moins de 3 mois. On n'y est pas encore, on a amélioré les choses, mais on n'y est pas encore. Mais l'idéal, ce serait 3 mois, 2 mois, 1 mois. Difficile, difficile. Le mycobactérium est résistant, et ce n'est pas une bactérie qui s'élimine, un mycobactérium qui s'élimine en 3 jours ou 8 jours. Mais l'idéal, ce serait effectivement d'avoir des traitements extrêmement courts, parce que le problème du suivi médical serait inférieur. Alors, les souches de mycobactérium résistantes à la streptomycine, c'est des mutations au bout du... sur cette boucle-là, voyez, en particulier, vous avez une guanine qui peut se muter vers une cytosine, voilà, sur la partie 530, la zone 530, quand vous comptez les bases, voilà, vous arrivez à 530, donc c'est un passage guanine-cytosine, c'est la résistance, la mutation principale qui conduit à une résistance. Une simple mutation de guanine en cytosine fait qu'il y a une perte d'activité très nette de la streptomycine. Voilà, donc ça c'est difficulté. Il faut tous les 30 ans ou 40 ans changer de molécule pour avoir de nouvelles molécules. Voilà, alors les rifamycines, belle famille d'antibiotiques pour lutter contre la tuberculose. Cette famille a été trouvée à partir d'une souche d'amycolaptes méditerranéi, près de Saint-Raphaël, en 1957. Voilà, et c'est trouvé par des gens du laboratoire Le Petit à Milan, société qui a été rachetée ensuite par Sanofi, dans la collection de toutes les start-up des années 50-60 rachetées par Sanofi. J'insiste à nouveau, mais on parle de start-up actuellement, mais il y a toujours eu des start-up. C'est juste parce que ça fait moderne et chic. Il y a toujours eu des jeunes entreprises créées dans le monde industriel, et ça fait partie du renouvellement du tissu industriel qui suit l'innovation. Voilà, alors, donc, on récupère à partir de cette souche une famille, et la stabilisation de cette molécule avec ce motif ici, qui est une piperazine, une 4-méthylpiperazine, qui donne un peu plus de solubilité et un peu plus de stabilité à la molécule, fait qu'on a la rifampicine. Cette molécule a remplacé la streptomycine et toujours associée avec le rimifon permet de traiter les tuberculoses en 9 mois au lieu de 18 mois. Donc on est maintenant sur des traitements inférieurs à l'année, mais on a encore besoin d'avoir de nouvelles molécules parce qu'il y a des souches résistantes à ces séries d'antibiotiques, malheureusement. Alors, mécanisme d'action et résistance. Alors, la rifampicine diffuse facilement à travers la membrane cellulaire de Mycobacterium tuberculosis et se fixe sur l'ARN polymérase en bloquant le canal de sortie de l'ARN messager naissant, inhibant ainsi la transcription. Voilà, donc c'est une molécule qui interagit avec une polymérase et on est dans la pharmacologie classique. Peu de souches sont résistantes, peu de souches, mais enfin il commence à y avoir tout de même quelques souches qui arrivent. C'est pour des raisons que je vous ai expliquées, c'est que si vous arrêtez un traitement à la rifampicine au bout de 2 mois ou 3 mois, vous n'avez pas éliminé complètement la souche de Mycobacterium et vous avez une molécule qui a commencé à être vue par Mycobacterium. Alors, derrière, au-delà des modifications, par exemple sur l'ARN polymérase, il faut voir que Mycobacterium, comme toutes les bactéries, met en marche, dès qu'il y a des molécules extérieures, dès qu'il y a un agent exogène qui cherche à rentrer dans, ou rentre dans les bactéries ou Mycobacterium, ce qu'on appelle des pompes à efflux. Sont en général des protéines qui servent à faire des échanges à travers la membrane plasmique, et c'est sert pour les bactéries ou les Mycobacterium de manière. C'est une façon pour ces bactéries et Mycobacterium d'expulser les molécules dont elles considèrent qu'elles n'ont pas besoin. L'autre point, c'est qu'il y a une ADP ribosylation de la rifampicine. Alors, il y a une enzyme de la bactérie qui s'appelle ARR, qui est une ADP ribosyltransférase, voilà, et qui est capable, elle, de transférer un ADP ribosyle, vous voyez l'adénine ici, les deux phosphates, sur un OH de la rifampicine, bloquant ainsi, modifiant la structure de la rifampicine et faisant, diminuant l'affinité pour l'ARN polymérase de Mycobacterium tuberculosis et la molécule perd son activité. Donc on a maintenant une connaissance très précise des mécanismes d'action et des mécanismes de résistance. Voilà. L'isoniazide, c'est une molécule extrêmement simple, aucun centre de chiralité, c'est une molécule qui est très peu coûteuse au point de vue synthèse et qui a une remarquable activité, qui a eu une remarquable activité sur Mycobacterium tuberculosis. C'était lancé par Roche, je vous ai dit tout à l'heure Novartis, probablement, c'est une erreur, c'est Roche, 1952, et actuellement, ça fait partie toujours de l'arsenal des bithérapies. Pour l'anecdote clinique, les premiers essais en clinique humaine ont été faits dans des tribus navarro qui avaient de la tuberculose mais qui n'avaient pas encore été exposées à la streptomycine pour faire la démonstration de l'activité de l'isoniazide, de ce qui va s'appeler le rimifon, sur des populations qui n'avaient pas été traitées à la streptomycine. Donc pour être sûr qu'il y avait une activité intrinsèque forte de l'isoniazide. Voilà, donc ça, dès 1950-1955, on a cette molécule qui arrive en traitement de la tuberculose. Alors, c'est une petite molécule qui pénètre facilement dans Mycobacterium et qui est activée par une enzyme. C'est un mécanisme d'action de l'isoniazide, bien que ce soit une molécule qui a été mise sur le marché en 1952-53-55. Le mécanisme d'action, je vais vous faire voir, a été encore discuté ces dernières années. Donc 1952 plus 60 ans, 2012, vous allez voir des publications qui datent des années 2012. Pendant 60 ans, on a utilisé le rimifon sans avoir une idée absolument complète du mécanisme d'action. Les choses changent. Si vous faites un dépôt de molécules au niveau de la FDA, ou de l'Agence européenne du médicament, on vous pose 3 questions. Quel est le mécanisme d'action? Quelle est l'activité pharmacologique? Quelle est la toxicologie? Il y a 40-50 ans, on posait des questions dans un ordre différent. Quelle est l'activité pharmacologique en 1? Quelle est la toxicologie? Et si vous avez des informations sur le mécanisme d'action, nous serions heureux de les avoir. Mais si vous n'aviez pas d'informations sur le mécanisme d'action, mais si la pharmacologie était correcte, et si la toxicologie était faible, le médicament rentrait sur le marché. Donc vous voyez, si on avait attendu le mécanisme d'action pour le paracétamol, on aurait attendu à peu près une centaine d'années, pratiquement, et pour le rimifon, on aurait attendu 60 ans. Et on serait privé pendant 60 ans de la molécule. Donc je crois qu'il faut revenir au bon sens de la pharmacologie. C'est quand on propose un médicament, un candidat médicament, la première question, c'est: est-ce que cette molécule a une activité pharmacologique importante? Et quelle est sa toxicité? Et si vous avez un intervalle de sécurité pour cette molécule qui est important, après, vous pourrez toujours demander à dizaines de chercheurs étudiant pendant des dizaines d'années le mécanisme d'action. Si vous avez tout en même temps, c'est parfait. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir tout en même temps. Et l'important, c'est d'avoir d'abord des molécules. Alors, l'INHA, en jargon pharmacologique, on appelle ça parce que c'est liaison nicotinique, acide, hydrazine. Donc, dans toutes les publications anglaises, comme on écrit maintenant en anglais, c'est l'INHA. Et c'est une oxydation. Alors, on a une activation par oxydation de l'isoniazide par une catalase peroxydase bactérienne, nommée 4G. Quel est le rôle de cette bactérie dans Mycobacterium tuberculosis ? De cette enzyme, pardon, dans Mycobacterium tuberculosis. Eh bien, dans tous les systèmes vivants qui vivent avec de l'oxygène autour, eh bien, on a besoin de contrôler toutes les espèces réduites de l'oxygène moléculaire. Des superoxydes dismutases pour se débarrasser de l'anion superoxyde, qui provient de la réduction à un électron de l'oxygène moléculaire. Puis après, deux électrons, vous avez des peroxydes. Et là, on a des catalases, des peroxydases, qui se débrouillent pour dismuter ces peroxydes et s'en débarrasser. Eh bien, isoniazide est oxydé par 4G. Alors, c'est une enzyme de 80 000 Dalton qui contient 2M, comme la plupart des catalases et des peroxydases, et qui a cette structure. Voilà. Alors, c'est un dimère de deux sous-unités, et dans chaque sous-unité, il y a un centre de symétrie ici, eh bien, vous avez une porphyrine de fer avec une histidine en ligand axial, comme dans toute peroxydase. Et voilà, ici, le fer avec une autre histidine en ligand axial. Et ce sont l'activation de ces sites hémiques par l'oxygène des électrons qui vont créer une espèce métalloxo, comme dans le cytochrome P450, qui vont être ensuite capables d'oxyder un certain nombre de substrats, dont l'isoniazide, qui vient ici se coller dans la poche de l'enzyme, ici ou là, et être oxydé. Être oxydé pour donner quoi ? On va le voir. Alors voilà une photographie du site. L'isoniazide vient juste au-dessus. Alors, en fait, c'est une structure au rayon X, hein. Ce n'est pas simplement une photographie, un petit schéma. L'isoniazide est juste au-dessus du fer de la protoporphyrine et entouré par un certain nombre de résidus de la protéine qui sont plus ou moins impliqués de près ou de loin dans l'interaction entre l'isoniazide et le site actif de l'enzyme. Alors, la question, c'est quels sont les produits d'oxydation et comment ils se comportent ensuite, ces produits d'oxydation. Alors, l'oxydation d'isoniazide par 4G conduit à un intermédiaire qui va réagir avec NAD+. Résidu nicotinique. A, NADH, NAD+, on est dans les réducteurs, les molécules capables de transférer des électrons dans une cellule. Alors, il y a un adduit, produit d'addition, qui va se former entre NAD et l'isoniazide, qui va ensuite inhiber compliqué de mécanisme d'action d'isoniazide. Une autre enzyme qui est l'INHA, qui était énoyl ACP réductase, qui est impliquée dans la synthèse des acides gras, précurseurs des acides mycoliques, constituant essentiel des parois de Mycobacterium tuberculosis. Une première oxydation, réaction avec NAD+, formation d'un adduit qui va servir d'inhibiteur à une enzyme qui est impliquée dans la synthèse des acides gras. Alors ça, c'est des exemples. Vous avez la version 6 ou la version trans. C'est juste ici au niveau de ce cyclopropane, différence de stéréochimie. Et ce sont les acides gras impliqués dans la constitution des parois de Mycobacterium tuberculosis. Les parois de Mycobacterium tuberculosis sont très résistantes, c'est très structuré. Et il y a une collection complète d'acides gras pour structurer Mycobacterium. Alors, pour comprendre en fait quels étaient les adduits formés et la structure de ces adduits, vous avez deux possibilités. Soit vous travaillez directement sur Mycobacterium tuberculosis, ce qui est tout de même demande si c'est une souche qui est considérée comme un peu pathogène. Donc vous ne pouvez pas faire ça sur un coin de paillasse. Donc il faut travailler dans un laboratoire P2+ ou P3. Et l'autre approche, et quand vous faites ça, vous travaillez sur un ensemble, qui est tous les constituants, que sont formés par tous les constituants de Mycobacterium. Il faut aller trier là-dedans pour trouver en quantité très très faible le produit d'addition durimifrance, l'isoniazide avec un AD+. Donc ça, c'est compliqué. Et donc, une approche de chimiste, approche dite biomimétique, c'est de dire, mimons l'activité de l'enzyme avec un produit chimique qui est un pyrophosphate de manganèse 3, un oxydant, et regardons quelles sont les structures de ces produits d'addition. Et après, nous irons les chercher au niveau de mycobactérium. Donc c'est une démarche qui avait été faite dans le cas des dérivés de l'artémisinine pour comprendre les produits d'addition de l'artémisinine avec l'EM, et c'est la même démarche qui a été suivie ici. Alors, on prend ce produit, oxydation, en présence de NADH, et on va s'apercevoir qu'on a des produits d'addition ici. Et la question était de savoir, est-ce que c'est ce radical, effectivement, après coupure de la liaison carbone-azote et le motif hydrazine qui est éliminé, est-ce que c'est ce radical qui est responsable de l'addition sur NADH, NAD+, pardon, ou pas, et est-ce que, quelles sont les structures? Oh, voilà. Alors, oui, on a identifié les structures, et puis à chaque fois, on a mis des chiffres qui correspondent à l'identification par une technique qui s'appelle résonance magnétique nucléaire des produits. C'est des produits d'addition qui ne sont pas tout à fait simples et évidents. Vous voyez que le résidu de l'isoniazide, c'est celui-là, et vous avez l'addition sur NAD+, qui est là, on retrouve l'adénine de NAD+, et donc sur cette partie-là, on a une formation d'une liaison carbone-carbone, et vous pouvez avoir une refermeture ici, on a une structure hémi-amidale tout à fait amusante au point de vue chimique. Et vous voyez que c'est compliqué, et on arrive à identifier parfaitement ces alluis, les caractériser et comprendre quelles sont les structures. Alors on a une série d'alluis, pas un, mais plusieurs, parce que l'addition radicalaire ne donne pas juste une molécule, donne une série de molécules, et à partir de cette série de molécules, selon la stéréochimie des produits d'addition, vous avez des carbones asymétriques ici, ici, vous voyez qu'on peut avoir donc différentes stéréochimies, les 4S, 4R, 4S, ou alors qu'on a deux centres de chiralité, 4S, 7R, ou 4R et 7S, et ensuite on peut faire des expériences de docking entre ces produits d'addition, dont on connaît la structure maintenant, et l'INHA qui a été cristallisé. Et on regarde par l'intermédiaire de programmes de docking, c'est-à-dire on fait approcher une petite molécule de l'enzyme et on regarde quel va être le site d'affinité, de plus forte affinité. Et donc on a comme ça déterminé, par exemple, que ce produit d'addition 4S est celui qui a le plus d'affinité pour l'enzyme INHA. Voilà, donc c'est comme ça que l'on sait que ce produit d'addition est l'inhibiteur principal majoritaire. Voilà. Voilà des résultats de calcul de docking. Vous avez ici, pour l'autre dérivé cyclique numéro 6, vous avez les différentes interactions. Vous regardez, vous minimisez, et ça vous permet de donner des différences d'énergie et de bien comprendre l'interaction de ces produits d'addition avec l'enzyme. Voilà, ça vous donne des affinités calculées in vitro, in silico, pardon, et donc voilà. Donc, ça a été des publications assez récentes. On peut considérer maintenant, avec l'activité d'autres équipes sur le sujet, que le mécanisme d'action de l'isoniazide est clairement élucidé 60 ans après l'arrivée de l'isoniazide sur le marché. Voilà. Alors, la tuberculose dans le monde, je voudrais revenir sur la tuberculose. Je pense que M. Bricker parlera probablement l'image équivalente de ce qu'est la tuberculose dans le monde. M. Bricker est un clinicien qui vous parlera des cas cliniques de tuberculose multirésistante et de la façon dont on traite actuellement. Alors, 2 milliards de personnes touchées par la tuberculose dans le monde. Sur 7 milliards, ça fait encore beaucoup de personnes. 1,2 million, 1,3 million de décès chaque année dus à la tuberculose. Alors, vous avez une cartographie de la tuberculose avec des couleurs qui varient. C'est le nombre de cas de tuberculose pour 100 000 habitants. Là, on est à 300 pour 100 000. Vous voyez que les couleurs foncées, on a l'Afrique et tout ça. L'Europe, les États-Unis, le Mexique, le Canada, toute une partie de l'Amérique du Sud, maintenant échappe aux cas de tuberculose importantes. Donc on a tout de même cette tuberculose en Russie et dans les pays. La Chine essaye de se limiter les cas de tuberculose parce qu'on sent que le système de santé en Chine ne s'est pas effondré de la même façon qu'il s'est effondré en Russie, par exemple, et dans les pays de l'ex-Union soviétique, où on a des cas de tuberculose multirésistante assez importants. Donc voilà la situation. C'est le problème de la multirésistance de la tuberculose. Alors, résistance à l'isoniazide, résistance à la rifampicine. Et donc, ça veut dire des durées de traitement plus longues et parfois des cas où on n'arrive pas à se débarrasser complètement de la tuberculose. Alors, sur les 8 millions de cas de tuberculose déclarés en 2010, selon les chiffres de l'OMS, plus de 650 000 sont des cas de tuberculose multirésistante. Donc 7%, plus de 7% des cas sont des cas de tuberculose résistante. Donc voilà le problème essentiel que l'on a actuellement. Les souches résistantes présentent des mutations sur le gène RPOB, codant pour la sous-unité bêta de l'ARN polymérase, et pour les gènes codant pour la 4G et NHA, les cibles de l'isoniazide. Donc on a maintenant une cartographie de la génétique des résistances sur Mycobacterium tuberculosis, on peut l'identifier assez rapidement pour les personnes atteintes par ces souches résistantes. Voilà les difficultés que l'on a. Alors, les raisons pour lesquelles on a ces résistantes, c'est la faible observance chez de nombreux patients dans de nombreux pays. Il faut voir que les structures de santé au XXIe siècle dans de nombreux pays sont en moins bon état qu'elles n'étaient il y a 30 ans ou 40 ans. Je rappelle que près de 50% des pays africains sont dans une situation de guerre civile et ce n'est pas la meilleure façon d'avoir des dispensaires dans tous les petits villages ou toutes les petites villes des pays africains. Donc on a une couverture sanitaire qui n'est pas en amélioration. La meilleure façon d'augmenter le niveau de santé dans un pays, c'est tout simplement d'y avoir la paix. Voilà. Bien, alors, on a cette diminution sous résistante, et est-ce que l'on a de nouveaux antibiotiques actuellement? Quelle est la situation en ce qui concerne la recherche sur des nouveaux antibiotiques? Pendant très longtemps, on n'a pas fait grand-chose. La tuberculose était considérée comme une maladie contrôlée, surtout dans les pays développés. Et à partir du moment où il y avait peu de mouvements de population dans le monde, on pouvait considérer que toute une partie de la Terre, l'Europe, les États-Unis, étaient un peu dans des zones protégées. Les choses ont changé, les migrations, les mouvements de population ont changé, donc ce qui fait qu'on se retrouve dans les grandes villes, quel que soit l'endroit où sont ces grandes villes, avec des cas de tuberculose résistante. Donc les choses ont changé. Depuis quelque temps, il y a eu des efforts tout de même pour essayer de faire de recherches sur de nouvelles molécules. Et voilà un exemple. Alors on fait maintenant du criblage, non pas génotypique, mais phénotypique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La génétique nous a dit, voyez, si vous avez INHA, la structure de la protéine impliquée, vous pouvez regarder du docking avec des inhibiteurs. Et quand la rifampicine est modifiée par ADP ribosylation, on voit bien que ça ne rentre plus tout à fait, que la clé a été modifiée et que la serrure n'accepte plus la clé. Donc ça, c'est merveilleux. Ça, c'est la pharmacologie rationnelle classique. On a une enzyme, une cible, et on va chercher des petites molécules qui vont rentrer. Donc on a besoin juste de savoir un certain nombre de choses. Par contre, si vous n'avez pas d'idée de nouvelles cibles, ça ne vous arrange pas. D'où, qu'est-ce que l'on faisait il y a 40 ans ou 50 ans? On faisait de l'expérimentation sur animal, directement, sur une souris infectée. Et on regardait si ça guérissait la souris ou pas. Et après, on cherchait à savoir pourquoi. Donc, maintenant, pour faire plus chic, on dit screening phénotypique. Ça fait un peu plus sérieux. Ce n'est pas sur une cible, c'est peut-être sur au niveau cellulaire, ou au niveau de l'animal. Voilà. Donc on entendra de plus en plus dans les années à venir de criblage phénotypique. Et en plus, un avantage, c'est quand vous dites ciblage et criblage phénotypique, on ne parle pas d'animaux. Donc, il y a beaucoup trop de gens qui sont extrêmement actifs auprès d'instances politiques pour expliquer qu'on n'a plus besoin de faire, d'utiliser des animaux pour tester l'activité des molécules. Je rappelais dans ma leçon inaugurale que depuis le procès de Nuremberg, on a considéré qu'il était plus important de faire d'abord les essais chez l'animal pour ensuite aller chez l'homme. La période de l'histoire de l'Europe où on s'est dispensé des expériences chez l'animal, on n'en a pas un très bon souvenir. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi le procès de Nuremberg a disparu de la mémoire de l'Europe quand on discute expérimentation chez l'animal. Voilà. Je redis ça de manière précise. Donc, criblage phénotypique. Alors, on peut regarder maintenant, ça c'est une technique intéressante, c'est de prendre un biofilm sur lequel il y a en formation un biofilm avec un mycobactérium. Et donc, vous regardez si, en trempant en quelque sorte ce biofilm en formation dans une solution qui va contenir des molécules actives, si vous avez inhibition de la formation du biofilm. Parce que là, c'est directement l'interaction d'une ou plusieurs molécules avec le mycobactérium, pas simplement avec une cible précise d'une protéine. Donc, ça va vous permettre de découvrir de nouvelles cibles. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Alors, il y a un produit, par exemple, qui s'appelle TCA1, qui, sur Mycobacterium tuberculosis, a une activité, une CMI en français, une MIC en anglais, c'est la concentration minimale inhibitrice pour avoir 50% de la progression, par exemple, du film qui soit inhibé. Alors, on a une activité intéressante. Sur Bovis, on est à 3 microgrammes par ml. Donc ça, c'est bien. Quelles sont les activités in vivo de ces molécules? Eh bien, cette molécule TCA est active sur la pulmonaire chez la souris. Alors donc, on regarde sur le biofilm et ensuite, on va rapidement chez la souris. On peut infecter les souris, déclencher une tuberculose pulmonaire chez la souris et ensuite tester la molécule. Alors, on a une infection et on regarde après 4 semaines de gavage, donc c'est un traitement par voie orale. Ce qui est important, c'est d'avoir de nouvelles molécules actives par voie orale, un peu moins de piqûres, un peu moins de seringues. Et effectivement, c'est bien d'avoir des molécules actives par voie orale. Vous voyez que lorsqu'il n'y a pas de molécules, vous avez ici le contrôle, c'est-à-dire le nombre de colonies qui se forment au niveau des poumons. Et vous voyez que ce nombre de colonies est largement diminué. Lorsque vous utilisez la molécule TCA, la nouvelle, qui est en jaune, vous l'associez au rimifon l'isoniazide, vous êtes à ce niveau-là. Et là, vous êtes au niveau d'activité de l'isoniazide plus la rifampicine. Donc, voilà, ça, c'est intéressant. En bithérapie avec l'isoniazide, vous avez à peu près le même niveau que la rifampicine. Donc, comme c'est un mécanisme qui est différent, parce que là, on a l'inhibition d'une enzyme qui s'appelle DPRE1. Je suis désolé, mais dans le monde moderne de la biologie, la nomenclature n'a pas le charme et la poésie de la nomenclature chimique, qui est rationnelle, alors que dans la biologie moléculaire moderne, c'est souvent des acronymes liés à la fonction de la protéine ou autre, ou au prénom de la personne qui a écrit ça dans son cahier de laboratoire pour la première fois. Voilà. Alors, donc, cette enzyme est impliquée dans la construction de la membrane des bactéries. Elle catalyse l'épérimisation du déribofuranose en déérythropentafuranoside. Et cette molécule TCA est un inhibiteur de cette enzyme. C'est un mécanisme d'action différent de ce que l'on connaissait jusqu'à présent pour les autres molécules qui ont une activité sur Mycobacterium tuberculosis, qui donne l'espoir, donc, d'ajouter une nouvelle cible avec de nouvelles molécules, et on peut espérer que ces choses se développent. Voilà un exemple de nouvelles molécules. Les spectinamides ne sont pas des molécules totalement nouvelles. Il y a une molécule qui s'appelait la spectinomycine, qui était connue, et pour laquelle on a fait des modifications par hémisynthèse. Donc vous prenez la molécule naturelle, peut-être des modifications chimiques, pour essayer d'espérer augmenter l'activité. Et vous voyez que cette molécule, la 1599, a une CMI sur Mycobacterium tuberculosis qui est de 1,5. Tout à l'heure, on était à 1,9. Vous voyez, ce sont des travaux récents publiés dans Nature cette année en 2014. Donc, c'est une nouvelle molécule, nouvelle activité. Et cette molécule, sur un modèle souris, est plus active que la rifampicine. Donc, on commence à voir dans la littérature, depuis maintenant quelques temps, ces 2-3 dernières années, des nouvelles molécules actives avec des niveaux d'activité qui laissent penser que si tout se passe bien en clinique humaine, on peut avoir un espoir d'augmenter l'arsenal thérapeutique pour traiter la tuberculose. Je voudrais vous faire terminer aujourd'hui avec quelques remarques sur la recherche sur ce qu'on appelle les maladies un peu oubliées. Neglected disease, en anglais. Alors, dans les maladies oubliées, la tuberculose n'était pas totalement oubliée, mais elle a eu tendance à être oubliée parce qu'on considérait qu'on avait suffisamment de molécules. Alors, je m'appuie sur une étude qui a été publiée par un groupe universitaire de l'université de Sydney, en Australie. C'est une étude, je m'appuie sur les documents de 2009, j'y ai eu accès sans trop payer. Maintenant, il faut payer pour avoir chaque année la version nouvelle de cette étude. Mais, grosso modo, les choses n'ont pas changé. Alors, c'est un rapport qui porte sur 30 molécules, 30 maladies négligées, et avec 134 informateurs, en quelque sorte, dans 43 pays. Donc, c'est une étude dite sérieuse. Alors, quand on regarde les chiffres, en 2007, il y avait 2,5 milliards de dollars qui ont été dépensés pour les recherches de R&D sur ces maladies négligées, dites négligées. Donc 2,5 milliards de dollars, ce n'est pas une somme négligeable. Mais quand on regarde la façon dont cette somme se décompose, on a un peu plus d'un milliard de dollars, c'est-à-dire près de 42% du total, pour le sida. Le paludisme, un demi-milliard. La tuberculose, près d'un demi-milliard. Pour les diarrhées, 113 millions de dollars. Les infections à base d'helminthes, des vers, la bilharziose dont on avait parlé, vous voyez qu'on est déjà à 50 millions, on n'est plus qu'à 2%. Et la bilharziose, c'est tout de même 200 000 décès chaque année. Les méningites, 32 millions. Pour les lépreux, on est tout de même dans le très très négligé. Vous voyez qu'on est avec, quand on additionne les ulcères de Burelli, on est à 0,4%. Il y a d'autres maladies, pour la dengue, la typhoïde, on est à 15%. Ce que je voulais indiquer sur cette diapositive en rouge, c'est que ça, ce sont des maladies dites très négligées, dont vous n'entendez pas parler dans vos journaux habituels, dans vos hebdomadaires habituels. Les maladies dont on entend parler sont, numéro un, le sida, le paludisme, parce que tous les journalistes peuvent attraper le palud quand ils sont infectés par un moustique, et la tuberculose en faisant du jogging sur un trottoir où quelqu'un crachait avant vous. Donc, grosso modo, si je peux me permettre cette remarque, c'est que les maladies négligées sont d'autant moins négligées que le circuit médiatique du monde moderne s'en empare. Pour la bilharziose, ça n'intéresse personne. On ne verrait jamais, ou très peu, dans les journaux actuellement, parler de recherche sur la bilharziose. Et pourtant, ça touche beaucoup de gens dans le monde. 200 000 morts, ce n'est pas négligeable. Donc, vous voyez, le monde moderne de la recherche de médicaments est un monde qui est sous influence également du monde des médias. Ce que je dis ne plaît pas à tout le monde, mais je voudrais tout de même le dire aujourd'hui. Le sida, ça a été typique. On a eu au début de l'épidémie, fallait-il faire des recherches sur le sida ou pas? Et la sphère médiatique s'est emparée du sida. Et effectivement, il y a eu d'énormes sommes consacrés au sida. Et bien, on a une trentaine de molécules actives des trithérapies. On n'a toujours pas de vaccin, mais on a tout de même largement évolué en 30 ans sur le sida. Il est évident que s'il n'y avait pas eu la pression médiatique autour du sida, on n'aurait peut-être pas eu autant d'activités de recherche de R&D sur le sida. Quand on regarde l'origine de l'argent sur le sida, vous voyez que le NIH aux États-Unis, c'est 62% des sommes consacrées sur Novo Mondial. La fondation Bill Gates, c'est 8%. C'est 90-100 millions de dollars par an. Et l'Agence pour le développement international aux États-Unis, près de 70 milliards. La Grande-Bretagne, 30. La France, 10 à peu près. Ça, c'est les chiffres de 2007. Vous voyez, on est tout de même largement derrière les États-Unis. Le budget total de l'ANRS, qui est l'argent consacré au sida en France, c'est 67 millions. Donc, sur la recherche, 10 millions de dollars. Voilà les chiffres impliqués sur choses. Alors, sur la tuberculose, en 2007, voilà comment se répartissaient les 400 millions de dollars dont je vous ai parlé. Pour la recherche de base, recherche fondamentale, nouvelles cibles, compréhension de mécanismes de drogue, c'était 30%. Nouvelles molécules, 30%. Vaccins, un peu 20%. Vous voyez, c'est relativement équilibré pour la tuberculose. Et c'est un schéma qu'on aimerait bien voir se développer pour d'autres maladies, dites négligées. Bon, en conclusion, et avant que M. Bricker prenne la parole et que vous ayez la parole avant, qu'est-ce que l'on pourrait imaginer pour la tuberculose? On peut rêver, c'est d'avoir de nouvelles molécules, on a quelques-unes dont je vous ai parlé, qui soient extrêmement efficaces, bien plus efficaces que ce que l'on a actuellement. Et on pourrait rêver de bithérapie ou de trithérapie permettant de traiter les tuberculoses multirésistantes en quelques mois. Les problèmes d'observance, de traitement, de compliance, comme on dit, seraient réduits. Et ça permettrait un meilleur suivi des malades, une meilleure observance, une réduction des souches résistantes qui circulent et une réduction des coûts de traitement. Voilà les rêves que l'on peut avoir ce soir sur le traitement de la tuberculose avant qu'on écoute M. Bricker. Mais avant, vous avez la possibilité de poser un certain nombre de questions. Nous avons 10 minutes. Merci de votre attention.